Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Trois personnes ont fait taire le Maracana. Le pape, Frank Sinatra et moi. Cette citation n'est pas de Maradona, de Zlatan Ibrahimovic ou de Cristiano Ronaldo, mais de Alcides Djidjia, attaquant uruguayen beaucoup moins présent dans la mémoire collective et pourtant artisan de l'une des plus grandes surprises de la Coupe du Monde de football, de l'un des plus gros traumatismes de l'histoire sportive du Brésil. Pour les amateurs du ballon rond, on en connaît une douleur brésilienne à domicile. Mais si, souvenez-vous, le fameux 7 à la maison collé par les Allemands en demi-finale de la Coupe du Monde 2014. La facilité allemande qui désosse des Brésiliens rois du foot, devenus simples paillassons. Score final 7-1, des larmes, des doutes et une énorme gueule de bois. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce drame n'était pas isolé. Et quand le 16 juillet 1950, lors du match pour le titre de champion du monde, Alcides Djidjia marque le deuxième but uruguayen, synonyme de victoire pour son pays, c'est tout le peuple brésilien qui va chanceler. 1950 donc, Younes rentre au collège, le monde se remet doucement de la guerre et le Brésil accueille sa première Coupe du Monde, la quatrième de l'histoire. Cette Coupe du Monde est assez étrange dans son système. Pas de match éliminatoire en effet, mais quatre groupes de quatre équipes. Le premier de chaque groupe est ensuite reversé dans un groupe final, une sorte de mini-championnat où chaque équipe s'affronte. La première du classement sera championne du monde. Heureusement, le hasard est taquin, intelligent, et il fait plutôt bien les choses. En effet, le dernier match de ce mini-championnat à 4 oppose les deux équipes encore capables de terminer première du groupe, le Brésil et l'Uruguay. Le Brésil, encore jamais champion du monde, a activé le mode rouleau-compresseur pour le devenir, une qualification facile pour le groupe final et des scores obscènes dans celui-ci. 7-1 contre la Suède, 6-1 contre l'Espagne. Merci monsieur d'être passé, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. De son côté, l'Uruguay alias la Céleste est la première équipe championne du monde de l'histoire. C'était en 1930, à la maison. Mais depuis, rien, ou presque. L'Uruguay refusant de se rendre en Europe en 1934 et 1938 pour défendre son titre. Son niveau de jeu est plus mystérieux, elle galère beaucoup plus dans le groupe. Accrochant un match nul pénible contre l'Espagne, 2-2, avant de gagner in extremis contre les Suédois, 3-2. Avant de s'affronter, la situation est simple. 4 points pour les Brésiliens, 3 pour les Uruguayens. Il suffit d'un match nul au Brésil pour être sacré. Enfin. Et vous l'aurez compris, cela semble être une évidence, tant la Seleção semble intouchable. À ce moment-là, personne ne pense que l'évidence va se casser les dents sur le mur bleu érigé par la Céleste. Tout est prêt pour le triomphe brésilien. Les politiques en font des caisses dans la récupération de l'événement, les médias sont sur deux et cherchent juste à savoir combien de buts va mettre le Brésil. Les rues sont bondées et confiantes et déversent son flot de supporters un peu partout. À Rio, le Maracana, le plus grand stade du monde construit pour l'occasion, affiche près de 200 000 spectateurs. Pas de distanciation sociale, mais une ferveur incroyable pour accompagner la sélection brésilienne qui joue en blanc à l'époque vers le sacre tant attendu. Du côté uruguayen, on y croit et on refuse d'avoir peur. Ce n'est pas dans les gènes de toute façon. Les unes des journaux brésiliens affichées dans les vestiaires pour motiver les joueurs, une confiance en leur jeu et leur fameuse gara. La gara, appelée désormais gara charrua, c'est la marque de fabrique de la Céleste. Mais c'est plus qu'un état d'esprit. C'est son supplément d'âme, sa religion. C'est le combat, le cœur, l'effort farouche et salvateur qui place la sélection au-delà de tout homme, de toute individualité. Une équipe soudée qui se battra jusqu'à la fin. Mais voilà que le match commence. Et très vite, on se dit qu'il faudra plus que la gara charrua de la Céleste pour empêcher le triomphe brésilien. Car certes, il y a cette occasion de Pérez à la 10e minute. Certes, il y a ce poteau du meilleur buteur uruguayen Miguez à la 38e. Mais la première mi-temps est clairement à l'avantage des Brésiliens. Le score est nul et vierge à la pause, mais le Brésil s'est procuré 17 occasions. On se dit alors que ce n'est qu'une question de minutes, et en effet, à la reprise, les Brésiliens, dans une ambiance incandescente, ouvrent le score par l'intermédiaire de Friacha, bien servi par la star Ademir. Les Brésiliens mènent alors qu'il leur suffit d'un match nul. On pense alors que c'est plié. mais deux coups de poignard vont être donnés par ces surprenants Uruguayens, à chaque fois par l'intermédiaire de leur assassin en chef, Alcides Djidja. C'est lui qui offre la balle de légalisation à Schiaffino à la 66e minute. C'est lui, surtout, qui marquera le deuxième but, 13 minutes plus tard, dans un silence de cathédrale. Le Brésil ne reviendra pas. Le Maracana est effectivement éteint. Djidja et ses copains sont champions du monde, une deuxième pour l'Uruguay. Tout le monde est stupéfait. Abasourdi, Jules Rimet, président de la FIFA, est bien embêté. Sûr comme tout le monde de la victoire brésilienne, il n'a pas préparé de discours pour l'Uruguay. Et il fera comme il peut en remettant ni vu ni connu le trophée aux mains du capitaine de la Céleste. Le Brésil, lui, fait grise mine, et c'est un euphémisme. Des suicides en pagaille surviendront à la suite de cette défaite. On parle même d'un suicide directement dans le stade au coup de sifflet final. Un supporter se serait jeté d'une tribune. Les arrêts cardiaques sont en hausse dans tout le pays. Pour aller de l'avant, on essaye de comprendre. On s'empare des symboles pour mieux les rejeter. Le Brésil ne jouera plus jamais en blanc. Le Brésil ne jouera plus au Maracana pendant 2 ans. Mais hélas, le Brésil ira plus loin dans la superstition. Le drame national laisse place à la tragédie raciale. On pointe du doigt les joueurs de couleur de l'effectif, coupables d'avoir perdu contre les blancs uruguayens. On ne les sélectionne plus. Dans ce triste jeu de la stigmatisation, Moacir Barbosa, le gardien noir titulaire, coupable sur le but de Djidja, trinquera le plus. Sa carrière sera brisée, on aura de cesse de le rejeter, de le huer. Ricardo Teixeira, président de la Confédération brésilienne, lui interdira même un de ses rêves, devenir commentateur. Un chic type ce Ricardo. Barbosa déclara, un peu avant sa mort, « Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paye depuis plus de 43 ans pour un crime que je n'ai pas commis. » Pendant que le Brésil pansera ses plaies, puis réussira à gagner 5 Coupes du Monde, l'Uruguay n'en gagnera plus aucune. Mais elle sera toujours considérée comme une équipe difficile à jouer, pleine de cœur. Une équipe qui ne se départira jamais de sa légendaire Gara.